Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes les bienvenus dans Samedi en France, l'émission qui vous propose, je vous le rappelle, de visiter chaque semaine quatre sites différents dans quatre régions différentes et qui vous permettent, enfin c'est notre souhait, de sortir des sites touristiques traditionnels pour lesquels je signale que nous avons le plus grand respect. Non, parce qu'on a l'air de dire, oui, n'allez pas là-bas. Si, si, allez-y, mais nous, c'est un peu différent. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir un château du XIIe siècle, en Ariège, entièrement restauré à l'identique. On dirait presque le propriétaire de l'époque vient d'y passer la nuit. Ensuite, vous deviendrez le temps d'une journée un cheminot, oui, aux commandes d'une locomotive entre Rouen et Orléans. Et puis nous terminerons dans les Vosges avec une canille rando. Dans le nom, vous avez presque tout, un canille chien, rando, randonnée, comme le nom l'indique. Alors, il y aura des chiens, bien sûr, il y aura un musher, il y aura une forêt, il y aura même un bain suédois chauffé au bois, c'est vous dire. Dépaysement garanti. Mais on commence tout de suite par un site insolite. C'est un de ces miracles de la nature que l'on vous propose chaque semaine avec Gavitz, Clémenté Ruiz, mon compère du guide du Routard, de découvrir. Alors aujourd'hui, direction la région PACA, très précisément dans le département des Alpes de Haute-Provence, mais ça suffit pas. On peut être encore plus précis, hein, Gavitz, bonjour.
Oui, bonjour William, bonjour à tous. On vous emmène visiter le village des Mets. M-E, accent aigu, E-S. On est entre Manosque et Digne-les-Bains. C'est un petit village vraiment provençal, pur jus, j'ai envie de dire, avec les belles façades pastel, le petit clocher à campanile, les bistrots, quand il fait beau, avec la tonnelle et tous les vestiges d'une cité fortifiée alors, juste à côté.
Alors ça, c'est pour le décor, ouais. Parce que tel que vous le décrivez, Pagnol, il aurait pu y tourner, mais on vient ici pour autre chose.
Exactement, on vient pour les pénitents des Mets.
Les pénitents, mais pénitents, enfin, d'après la définition, ce sont des gens qui confessent leur péché, c'est ça, non ?
C'est exactement ça, William. Ils viennent confesser leur péché, mais ces pénitents-là, William, ils sont en pierre.
Ah bon, donc on les appelle les pénitents, c'est un surnom, quoi.
Exactement, c'est ça. Les pénitents des Mets, ce sont des rochers, c'est une succession de rochers. Ils ont une petite couleur grisâtre, un peu orangée avec le soleil, et ils sont au coude à coude, découpés par l'érosion. C'est vraiment très beau.
Alors, quand vous regarderez une photo, avant d'y aller, bien sûr, on a l'impression, de loin comme ça, de personnes, d'individus, hein. Ils sont derrière les uns des autres, d'où le nom probablement de pénitents. Et la pierre, ça fait comme des robes de moine. Hein. Ils font combien de mètres d'ailleurs ?
Ils font une centaine de mètres chacun.
Chacun ?
Ouais, chacun, oui. Il y en a plusieurs, une petite dizaine à la queue leu-leu, comme ça, qui se suivent.
Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Olivier, qui est accompagnateur montagne à Rando-Mets. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors, en quoi elle est faite cette roche-là dont vient de parler Gavitz et qui permet finalement une telle érosion ? On voit pas ça partout ?
Non, tout à fait. En fait, on en trouve à différents endroits, mais comme l'a bien expliqué, ce sont du poudingue, ce qu'on appelle du poudingue en géologie.
Poudingue ?
En fait, c'est du poudingue, ouais. Comme les gâteaux, vous savez, quand on fait un gâteau, on en met plusieurs, on fait un gâteau qui s'appelle du poudingue. On a exactement la même chose en géologie. En fait, ce sont des roches détritiques qui se sont accumulées. Ce sont des galets qui se sont posés les uns sur les autres, qui ont été brassés par les rivières et se sont posés les uns sur les autres pour se sceller entre eux par un ciment naturel qui est le sable.
Voilà. Vous dites qu'ils se sont posés de manière naturelle, ces galets-là, ou il y a l'homme qui est intervenu pour faire
non,
ces
non,
espèces
tout à fait.
C'est naturel.
Tout à fait naturellement, ce sont les glaciers qui ont brassé les cailloux, qui les ont roulés, et se sont posés naturellement sur plusieurs centaines de mètres, qui ont constitué d'ailleurs le plateau de Valensole.
D'accord. Et est-ce que cette érosion continue, ou une bonne fois pour toutes, elle a été stoppée à un moment ?
Non, tout à fait, ça continue, puisque c'est pas un bloc complet, ce sont différents cailloux qui sont liés les uns aux autres, mais ils subissent le temps, bien évidemment, le vent, la pluie, le gel.
Alors,
donc
ça continue
à s'éroder.
Ce sont les gens de la région qui quand ils parlaient de ces statues-là, ils disaient « Ah ouais, c'est les pénitents, c'est ça ?»
En fait, oui, les formes ont inspiré les hommes. De là, ça s'est créé plusieurs légendes. Voilà.
Alors justement, il y a des légendes, on a dit qu'il y en avait plusieurs dizaines. Allez, vous nous en citez une pour voir, allez.
Allez, rapidement, donc du coup, il faut remonter au temps où les Sarrasins avaient la Provence sous leur coupe quand ils sont débarqués à Marseille. Et au village des Mets, nous avions un seigneur, Rimbaud, qui un jour a décidé de combattre ces Sarrasins et de reprendre possession de son territoire. Et en faisant une bataille sur le château des Sarrasins, il découvre dans les ruines du château cette belle femme, cheveux noirs magnifiques, et il décide de les ramener à son château.
Ah ouais, il les enlève quoi.
Tout à fait, les gardes prisonnières. Et à l'époque, il était de coutume de les descendre par la Durance en Arles, où était situé le gouvernement. Mais devant la beauté des filles, il va garder plus longtemps que prévu à son château. Donc la population s'est mise à poser des questions, un seigneur qu'on voyait beaucoup, et du jour au lendemain, on ne le voyait plus. Donc on lui envoyait un prieur qui a essayé de le raisonner.
Ah oui, pour expier sa faute, quoi.
Exactement.
Ah ouais.
Mais le seigneur lui a fait comprendre qu'il devait s'occuper de ce qui le regardait, et le prieur est reparti. Quelques jours après, ils sont revenus plus à deux en disant qu'ils avaient été excommunés et que la population commençait à gronder. Donc, devant la vindicte populaire, le seigneur a accepté de conduire les prisonnières à la Durance. Mais le moine vexé a dit non, ce sera moi et mes moines qui escorteront ces prisonnières à la Durance. Donc, on a réuni la population un dimanche matin. Les prisonnières ont été conduites à la Durance, escortées par les moines. Mais les moines n'étant que des hommes, eux aussi pouvaient succomber à l'attention de ces jolies filles. Et Saint Donat, qui était un ermite qui vivait pas loin et qui surveillait ses ouailles, a décidé de les figer sur place dans leur robe de bure pour pas qu'ils succombent à la beauté des filles. Ce qui est devenu les pénitents des mets.
Bon, les pauvres vieux, là, ils avaient une bonne intention, les moines, là, les petits moignons. Ils sont fait geler sur place. Bon.
Sur place, tout à fait. Ouais.
Très bien. Bon, ça, c'est une des légendes. Moi, je l'aime bien, celle-là. Il paraît qu'il y a une croix aussi qui était, c'est vrai, ça, incrustée dans la pierre. Enfin, tout ça, c'est symbolique, je suppose.
Non, tout à fait. Cette croix existe réellement. Alors, elle fait partie intégrante de la légende. On dit que c'est la croix que le prieur avait autour du cou lorsqu'il était figé sur place. En réalité, cette croix est un mystère. Cette croix est située à plus de 50 mètres de haut, dans une petite cavité. Et on s'est rendu compte qu'elle était positionnée par l'homme, puisqu'il s'agit de deux morceaux de bois calés par des pierres. Et deux escalades ont permis de pouvoir prélever deux petits morceaux de bois afin de les dater. Ça correspond à deux essences d'arbres différentes qui correspondent à des arbres qui sont aux alentours des années 900-960.
Alors, quand on va là-bas, bien sûr, on y va pour regarder les pénitents, mais il y a quand même une promenade. Le fait d'y aller, c'est déjà un moment intéressant.
Tout à fait, oui. En fait, l'intérêt, c'est de voir ces rochers d'en bas. Vous êtes devant une muraille de 114 mètres de haut. Mais l'idée, c'est qu'on peut passer dessous et ensuite remonter dessus. Ce que vous voyez au-dessus n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'en bas. On a l'impression que ce sont des blocs, mais en fait, en haut, on se rend compte que c'est une succession d'arêtes. Donc, c'est très intéressant à observer.
Ah ouais, parce que je vois sur les photos, il y a comme un tunnel qui passe sous les pénitents.
Tout à fait, un tunnel de 200 mètres de long qui avait été créé par l'ancienne municipalité en 1780 pour éviter l'inondation du village. Donc on peut passer largement dessous, il n'y a aucun souci.
Merci beaucoup Olivier pour la description, il n'y a plus qu'à y aller. Ça prend quoi? Ça prend 2-3 heures, randonnée compris.
Oui, en gros, il faut compter 2h30 à 2h45 de balade avec les photos, explications.
Ça s'appelle les pénitents de mai. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée, au revoir.
Merci de même, au revoir.
Combien ça coûte ta visite, Gavis?
Eh bien, il faut compter 15 euros. Et je vous conseille d'aller au bureau d'information touristique des Mets pour réserver la fameuse visite. Et je mets toutes les informations sur europe1.fr.
Alors, il n'y a pas que le sentier des Mets, la balade sous le tunnel, on va en bas, on va en haut, il y a autre chose.
Non, les Mets, c'est aussi connu pour les oliviers. Alors là, l'arbre, hein, non plus le guide. Il y a plus de 280 000 pieds d'oliviers autour des Mets.
Ah
et
bon
en ce moment, William, c'est la récolte, il faut en profiter. Donc, on va suivre aussi le sentier des oliviers pour faire le plein de rencontres et peut-être croiser Olivier, le guide
qui vous amènera
au pénitent des
Mets. Ça vous a pas échappé, ça, Olivier. Olivier. On peut ramener de l'huile d'olive ou ils ne fabriquent pas sur place?
Alors, si, on peut ramener de l'huile d'olive, c'est ça qui est intéressant. Il y a des moulins, d'ailleurs, vous allez faire le plein d'huile d'olive, bien entendu, au moulin des pénitents, par exemple. Ou alors, il y a le moulin d'Arizzi qui produit, alors lui, une huile d'exception avec, il n'y a pas moins de 3 olives différentes sur un site qui est vraiment très très beau. Il y a un écomusée pour tout savoir et il y a aussi un sentier botanique. Le lieu, rien que tel, le moulin d'Aridzi est vraiment très très beau.
Alors les adresses que l'on vous donne aussi dans Samedi en France, parce que une fois que vous êtes sur place et que vous avez décidé d'y passer une journée, voire une nuit, ben on y reste et on va où?
Eh ben là, on va pouvoir aller dormir dans les chambres d'hôtes, le cabanon de la Coste. C'est à 3 km des mets. Mmh. Alors là, il faut compter environ 70€ pour la nuit et 23€ pour la table d'hôte. C'est correct. Mmh. On découvre le cabanon. Alors, c'est devenu une belle maison. On est au milieu des champs, au pied des roches, des pénitents, vous les verrez. Et c'est une maison d'hôte avec du bois, il y a de la pierre, il y a du métal au niveau de la déco. C'est assez élégant, j'aime beaucoup. Ça s'appelle le cabanon de la Coste. Mmh. Mmh. Et puis, j'ai envie de dire, William, j'ai l'envie d'aimer.
Oh, merci.
Un jeu de mots et ça déclenche un cortège de
musique
formidable.
C'est fou.
Europe 1, 15h-16h, Samedi en France.
William Lémergie.
Dans Samedi en France sur Europe 1, on vous présente chaque semaine un site dit du patrimoine, dont vous n'avez probablement pas entendu parler, à moins d'habiter la région. En tout cas, pour celui d'aujourd'hui, c'est un château du XIIe siècle, en parfait état. Et c'est ce qui fait toute l'originalité du lieu. Quand un monument qui a presque 10 siècles d'âge rencontre la technologie la plus moderne, eh bien vous obtenez ça. C'est un château qui a l'air de revivre comme à l'époque de sa splendeur. Et Gavin Clemente Ruiz, seigneur du guide du Routard, bien sûr, va baisser le pont-levis. Alors, nous sommes où exactement, Gavin?
Alors, William, je vous emmène cet après-midi en Occitanie. Alors, c'est dans la préfecture de l'Ariège. J'ai nommé la ville de Foix. On est entre Saint-Gaudens et Carcassonne. Alors, c'est là que se dresse le château de Foix, qui a été construit au XIIe siècle, vous l'avez dit. Il domine totalement la ville. Il est massif et il est majestueux.
Quand je vois la photo, là, je dirais que c'est un château de défense, comme on disait à l'époque.
C'est exactement ça. Il a même la réputation d'avoir toujours résisté.
Ah bon?
C'est un haut lieu cathare.
Ah.
Les cathares, ils étaient hostiles, comme vous le savez, à l'église catholique romaine, particulièrement appréciés des seigneurs locaux autrefois. Quand le mouvement a été dissous, le château est devenu une prison jusqu'en 1864.
Qu'est-ce qu'on y voit à l'intérieur quand on le visite?
Le château a été complètement rénové et c'est ce qui fait son originalité aujourd'hui. C'est devenu un château immersif.
Il y a des mots à la mode comme ça, immersif. Alors là, vous l'employez dans quel sens, immersif?
Le château immersif, comme on l'entend ici à Foix, c'est qu'il utilise toute la technologie d'aujourd'hui, la technologie moderne, pour nous le faire revivre comme autrefois. C'est là où c'est intéressant, la technologie nous permet de faire un saut dans le passé.
Oui, mais est-ce que pour le coup, on peut se prendre, je sais pas, pour un chevalier et participer à un banquet de Monsieur le Comte
je vous sens prêt à partir là.
Non, mais c'est ça qui serait marrant, tirer à l'arbalète, on peut faire tout ça ou pas?
On peut faire tout ça au château de Foix, vous allez vous prendre pour Gaston Phébus.
Qui c'est lui?
Alors Gaston Phébus, c'était le chevalier de la guerre de Cent Ans, un des chevaliers de la guerre de Cent Ans, et un ancien seigneur du château de Foix.
Ah voilà, d'accord. Il habitait là-bas, quoi.
Exactement.
Bon, alors ça mérite un peu plus d'informations. Ça tombe bien, nous avons au téléphone Raymond Berdou, qui est le président du CESTA, ça veut dire Service d'exploitation des sites touristiques de l'Ariège. Bonjour Raymond.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce dont vient de parler Gavin, c'est-à-dire un parcours immersif qui permet de se plonger dans l'histoire du château? Concrètement, ça se passe comment? Il y a du son, il y a de l'image, est-ce que tout est si moderne que ça?
Oui, c'est exactement cela. En fait, on plonge dans l'histoire du château et celle des comtes de Foix. Le château qui est le site le plus visité du département avec environ 100 000 visiteurs qui souhaitent davantage être acteurs de leur visite et vivre une aventure. La nôtre, celle des comtes de Foix. Voilà, c'est celle qui est racontée. Alors pour cela, en 2017, nous avons décidé de réaliser un projet ambitieux de 8 millions d'euros avec pour objectif de proposer à notre public un voyage au cœur du Moyen-Âge.
Et oui, et dans le château.
Dans le château, oui. Dans la partie musée, il y a de nombreux supports multimédia. Des projections de vidéos qui permettent une visite très interactive et immersive et qui est adaptée aussi à tous les publics et à tous les âges. J'ajouterai de plus que des compagnons de visite sur smartphone sont disponibles pour une immersion totale. Oui.
C'est curieux quand vous racontez ça, parce que j'imagine quand on est dans ce château, c'est quand même un château. En plus, il a été reconstitué, il est impeccable. C'est de la pierre, c'est comme avant. Et puis tout d'un coup, il y a de la vidéo, quoi. Le contraste doit être saisissant, non ?
Oui, le public peut ainsi apprendre en s'amusant, c'est notre philosophie, et vivre une vraie aventure, jouer comme jouer avec le livre de la chasse, qui, si on le touche, s'anime et se transforme en un vrai spectacle animé.
Est-ce qu'on a vraiment l'impression, parce que je suppose qu'il y a un ameublement que vous avez reconstitué, est-ce qu'on a l'impression que le château est presque, je dis bien presque, encore habité par les propriétaires ?
Ben, c'est tout à fait cela, oui. En effet, une partie de l'ameublement d'origine a été reconstituée le plus fidèlement possible, bien sûr, avec les essences de bois, les méthodes médiévales. Mais nous avons également la chance d'avoir une pièce très rare, le lit d'Henri IV, dans lequel il a bien évidemment dormi. Saviez-vous qu'Henri IV, célèbre roi de France, était comte de Foix ? Eh bien, vous l'apprendrez en visitant notre château de Foix. Mais vous découvrirez aussi beaucoup de meubles copiés, de meubles historiques. Quelques-uns sont peints d'ailleurs, voilà. Tout un univers qui rappelle et qui immerge nos visiteurs justement dans le 15e siècle.
Il paraît que vous proposez aussi ce qu'on appelle des ateliers participatifs pour les adultes ou les enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers ?
Bien, en effet, nous proposons des ateliers qui permettent aux visiteurs de tous âges de s'immerger pleinement dans le Moyen-Âge. Alors, taille de la pierre, tir à l'arbalète, atelier forge.
Oui, ça, c'est beau,
voilà, atelier forge. Tir avec des machines de guerre. Donc, je rappelle au passage qu'elles sont les seules à l'échelle 1 en Europe. Donc,
c'est-à-dire, si vous voulez, elles sont réelles, quoi.
Tout à fait.
Parce que moi, je les vois en photo, là. On dirait qu'elles sortent d'un film tourné par Ridley Scott lui-même. Elles sont magnifiques, en bois. Et donc, on projetait des pierres ou des boulets, je ne sais pas, contre les murs de l'adversaire, quoi. Elles sont magnifiques. Hein.
Contre les éventuels adversaires, bien sûr. Et donc, pour le visiteur, l'immersion est entière. Les ateliers sont participatifs.
Et la visite dure à peu près combien de temps ?
Pour apprécier pleinement la visite du château de Foix, il faut compter 4h30. Pour autant, la visite est libre et chacun peut la faire à son rythme. D'ailleurs, il y a un système de bracelet de site qui permet de sortir, peut-être si on arrive le matin, d'aller manger au restaurant, de revenir. On peut même la faire en deux jours.
Ah, ça c'est bien ça. C'est-à-dire, on fait ça par étapes, quoi.
Ça peut se faire par étapes ou ça peut se faire d'un trait, c'est selon.
Oui, alors quand on sort de là, on a droit à un diplôme de chevalier ou pas ?
Oui, je suis convaincu que si ce diplôme existait, vous l'auriez très certainement. Et même avec mention, très bien, après avoir visité le château de Foix.
Très bien. Merci pour la visite, Monsieur Berdeau. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas trop loin, ils iront faire un tour pour visiter ce château entièrement rénové, ce qui n'est pas banal, franchement. Bonne journée à vous.
Merci à vous et rendez-vous au château de Foix.
Oui, à bientôt. Gamine, c'est ouvert toute l'année là.
Ah oui, on peut se ramener au château de Foix. C'est ouvert toute l'année, c'est ouvert le week-end hors saison et tous les jours le reste de l'année. Ça coûte 11,50 € pour un adulte et c'est moins cher pour les enfants. Et alors, je précise, en ce moment, on a l'occasion de profiter d'une expo au château qui s'appelle Épée de légende d'Excalibur au sabre laser. Alors, ça va vous plaire. Oui. C'est une expo qui plaît aux passionnés d'histoire et aux amateurs de pop culture aussi. C'est ça, j'aime bien le contraste. Et aux cinéphiles, parce qu'on voit comment les objets cultes du cinéma ont été inspirés par des objets d'autrefois. Et on va voir le contraste entre les deux. On verra les objets.
Mais ça ne concerne que les armes de poing, c'est-à-dire une épée, un couteau.
Exactement.
Cette expo.
C'est les épées de légende. Et c'est en ce moment au château de Foix.
D'accord. Si on veut ramener un petit souvenir local, on trouve ça sur place ou dans le coin ?
Dans le coin. On va continuer dans le tranchant. On va aller à la boutique de la coutellerie Savignac. Oui. c'est une institution, c'est la coutellerie qui existe à Foix depuis le XVIIIe siècle. Vous verrez, et vous ramènerez une petite arme. Alors, c'est pour les cadeaux de Noël, hein, c'est l'occasion.
Mais vous savez, dans ces régions-là, il y a des couteaux qui portent le nom de la région, le nom d'un village.
Vous verrez, ils ont tous des petits noms.
C'est ça.
C'est assez original.
Pour les collectionneurs, j'en connais, c'est très intéressant.
La coutellerie, ouais. Savignac.
Il y a autre chose comme genre régional là.
Alors là, c'est dans un autre registre. C'est la charcuterie rouge, toujours à Foix, la boucherie de référence pour apporter le jambon pays ariégeois, bien sûr. Il y a la saucisse sèche de Foix. Il y a aussi, Foix, F-O-I-E. Saucisson sous la cendre aussi, ça me tente bien. Et le coffin canard, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, il faut en profiter. C'est des produits d'excellence, vous pourrez les trouver. Et vous les trouvez depuis 1870 à la charcuterie rouge.
Quasiment les mêmes.
Quasiment.
Merci Gavitz pour toutes ces bonnes adresses à retrouver sur vos réseaux sociaux habituels. Nous on aime bien europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Petit rappel pour ceux qui sont arrivés en retard éventuellement. Samedi en France, c'est une émission qui va à la découverte de sites, de paysages en France, bien sûr, qui méritent votre curiosité et qui nous emmène parfois en dehors des circuits touristiques traditionnels. Alors, la preuve, une nouvelle fois, puisqu'on va au cœur de la Normandie, c'est dans l'Eure, non pas à pied, mais à bord d'un train tel qu'il circulait au cours du siècle précédent. Alors, c'est donc pas un seul paysage que vous allez pouvoir voir, un seul petit château, un seul village que vous allez croiser. Non, non, vous aurez une journée entière pour découvrir tout ça. Et Gavins Clémenté Ruiz, du guide du routard lui-même, ancien cheminot, s'est transformé pour l'occasion. Vous allez voir, dites-nous où se situe d'abord la gare de départ.
Attention au départ, William, attention, nous sommes en gare de Passy-sur-Eure. Et c'est donc là, dans le département de l'Eure, à 20 km des vôtres, très précisément, que nous allons partir. C'est là que se trouve le repère de vrais fans de locomotives d'autrefois. Elles ont circulé, pour certaines, au début du siècle. Il y a une voiture postale, avec il y a tous les petits tiroirs pour ranger le courrier. Il y a l'autorail, il y a aussi la gare qui est restée dans son jus. Il y a les valises qui sont là. Avec la balance aussi, vous savez, on se pesait aussi, on pesait sa valise pour savoir combien elle pesait avant de monter. Bref, il y a tout ça. Dans la gare de Passy-sur-Eure, on a l'impression de faire un vrai saut dans le temps.
Bon, une fois qu'on arrive sur place, qu'est-ce qu'on fait
on monte à bord et on va piloter.
Comment piloter? Nous, on a le droit aussi.
Exactement. C'est ça qui est bien. C'est que vous allez pouvoir monter à bord de la locomotive dans ce petit train. Alors, c'est pas un petit train touristique comme les autres. On regarde juste le paysage, non.
Non, là, mais ça, c'était déjà pas mal. Mais en plus, on peut piloter ça. C'est intéressant, ça.
Ça, c'est bien. Et c'est avec l'association du chemin de fer de la vallée de l'Eure. On va faire une partie du tronçon, de l'ancien tronçon Rouen-Orléans.
Oui, mais est-ce que tous les passagers qui vont monter à bord, je ne sais pas combien on peut en accueillir, ils ont tous la possibilité à un moment donné d'être le cheminot d'un jour.
Alors c'est un cheminot, voire deux. Comme ça, vous pouvez faire les manœuvres, vous pouvez vraiment opérer.
Ah bon,
et vous pouvez peut-être emmener quelques passagers.
Oui, mais est-ce qu'on assiste à ça?
On assiste à tout ça.
Même si on ne fait pas le...
On voit au début les manœuvres et puis après on part. Et c'est parti pour la visite.
Ok. Bon, ça mérite quand même d'autres explications. Ça tombe bien puisque nous sommes en ligne avec Stéphane Van Extergem de l'association du chemin de fer de la vallée de l'Eure. Monsieur le président de l'association, vous êtes au moins président de l'association, j'espère. Bonjour.
Pas du tout. Bonjour à vous, mais pas du tout. Même pas président.
Mais il y a un président ?
Oui, on a actuellement un président, comme toute association.
Ah oui. Mais vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux dans cette association.
Alors actuellement, nous sommes un peu plus d'une cinquantaine de membres.
Ah, quand même.
Après, nous avons différents statuts. Donc, en membres actifs, nous sommes environ une quinzaine à exploiter vraiment le chemin de fer.
C'est ça. Et vous relayez bien sûr pour accueillir tous les nouveaux passagers à chaque fois.
C'est bien ça.
Vous êtes de vrais passionnés. Est-ce qu'il y a des critères pour faire partie de l'association?
Aucun critère. Tout le monde est le bienvenu. Tous les corps de métier sont présents à l'association. On dit souvent qu'on n'est pas obligé d'aimer le train pour faire partie de l'association, bien au contraire. Tous les corps de métier et toutes les personnalités sont les bienvenus à l'association.
Et vous avez quel genre de locomotive à votre disposition? Et est-ce que c'est vous qui les avez retapées pour qu'elles soient en état de marche?
L'association s'occupe principalement elle-même de la restauration et de l'entretien du matériel roulant.
Ah oui.
Et on a du matériel qui va des années 14 jusqu'aux années 1914.
1914.
Oui, oui, 1914 jusqu'aux années 60-70, avec du matériel classé monument historique. On a du matériel américain, du matériel français, enfin voilà, on a plein de matériel en tout genre.
Ah oui, vous avez plusieurs types de locaux. Alors ça doit être un sacré budget, d'une part, et d'autre part, il faut savoir le faire pour retaper tout ça. C'est vous qui vous en occupez ?
C'est bien ça. Alors du coup, bah, on fonctionne beaucoup, nous, en autodidacte, et puis on a la chance d'avoir quelques cheminots dont je fais partie, et puis on a différents corps de métier dans l'association, mais beaucoup d'autodidactes, beaucoup de passion, et puis... on improvise et quand on ne sait pas faire, on voit avec des entreprises plus compétentes.
Oui, bien sûr. Alors, quand on veut être le voyageur d'un jour, comment ça se passe la journée à vos côtés ? Racontez-moi ça.
Alors généralement, bon, on n'est pas des formateurs très méchants. On accueille nos stagiaires avec un petit café, un bon petit déjeuner. Mm-hmm. On présente un petit peu la journée. Et la journée se décompose en deux parties. Une formation un peu plus théorique le matin sur les règles de sécurité et le fonctionnement du chemin de fer touristique. Mmh. Une petite partie historique sur l'histoire de l'association. Ensuite, une pause repas à bord des voitures restaurant ou dans notre belle gare de pâtissier.
Ah bon, vous faites restaurant aussi ? On n'est pas obligé d'amener son sandwich, alors c'est bien ça.
Ah non, la voiture restaurant ne fonctionne pas le jour des stages, mais on a des trains restaurants qui existent à l'association.
Une fois qu'on a fait tout ça, l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà, l'après-midi, du coup, on emmène les stagiaires préparer l'engin moteur, et puis ensuite, on leur fait faire des manœuvres pour préparer le train, et on part ensuite en ligne pour faire un aller-retour d'environ 45-50 minutes, où on les fait pratiquer le plus possible. Et ensuite, en retour en gare, on leur fait ranger le matériel et on leur fait stationner l'engin moteur.
Et tout le monde peut faire ça ? C'est pas trop compliqué ?
Tout le monde. Comme je dis souvent, conduire un train, c'est pas très compliqué quand tout va bien. Donc, en général, nous, tout se passe bien. On essaye de préférence d'avoir des personnes majeures, puisque c'est plus facile pour nous. Mais après, on étudie toujours les possibilités de vrais passionnés qui ne sont pas majeurs.
Combien vous pouvez accueillir de passagers, de voyageurs ?
Alors, sur les trains commerciaux classiques, sur les plus grands trains, on peut accueillir jusqu'à 220-230 personnes dans la rame. Après, c'est pour des compositions des trains classiques. Sur les stagiaires, généralement, on leur dit qu'ils peuvent amener leur famille ou leurs amis et on adapte les compositions du train en fonction du nombre d'accompagnants que le stagiaire...
C'est-à-dire quoi, vous mettez à disposition une autre locomotive ou un autre train ?
Non, généralement, c'est des voitures qu'on met derrière la locomotive que le stagiaire va conduire.
Ça s'appelle comme ça, c'est une voiture.
Voilà.
Ouais, d'accord.
Une voiture pour les voyageurs. En fonction du nombre d'accompagnants, voilà.
C'est vrai que j'avais appris ça quand j'étais plus jeune. On dit une voiture, on ne dit pas un wagon, c'est ça hein ?
Voilà. Un wagon, c'est pour la marchandise ou les bestiaux.
Est-ce que pendant la promenade, dans la journée, avec les paysages que l'on traverse, est-ce que vous fournissez également, comme une sorte de guide, des informations sur ce que l'on voit à travers
Nous, aux stagiaires, oui, on leur fait l'historique, on leur explique un petit peu l'histoire de la ligne, les paysages et tout, donc les stagiaires en profitent directement en cabine. Après, sur les trains plus classiques, les trains promenades, de toute façon, toutes les visites sont commentées sur l'histoire et les choses à voir sur la ligne. Comme on roule très doucement, les gens
profitent
du paysage de la vallée de l'Eure.
Vous roulez quoi ? Vous roulez à 20 km/h ?
C'est ça. L'exploitation se passe entre 20 et 30 km/h maximum.
Ah, je l'ai dit au pif, ça. Non parce que parce que nous ici nous sommes dans une ville où on peut pas dépasser le 30 km/h, alors ça m'a donné des idées.
Et on roule pas beaucoup plus vite généralement, on dépasse rarement 20-25 km/h le temps que les gens
qu'on apprécie, c'est ça. Bon, merci Stéphane. Je vous souhaite un bon voyage pour ce week-end et prochain départ. Alors c'est à quelle heure le matin on démarre ?
Alors le matin on démarre à 10h.
10h.
L'accueil, et ça puis la journée se finit entre 16h30 et 17h.
Parfait, merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Et merci de votre intérêt pour l'association, bonne journée, au revoir.
Je vous en prie. Alors Gavit, combien ça coûte la promenade ?
Alors 190 € par personne, on l'a vu. Hein,
quand même ?
Ouais, quand même. Mais bon, ça ne dure pas une heure, hein. On l'a entendu, c'est de 10h à 17h, c'est quand même une belle promenade, avec, on apprend des choses et on met les mains dans le cambouis. Hein.
Oui, en plus on s'en souvient un bouton, on ne fait pas ça tous les jours. Si on veut dormir dans les environs, avant ou après, c'est ce qu'on veut.
Eh bien, je vous conseille les chambres d'hôtes L'Aulnay. C'est à Fontaine-sous-Jouy, c'est dans une ancienne ferme rénovée avec un beau jardin, c'est vraiment très beau. Il y a la devanture sous le feuillage avec les fleurs, c'est magnifique. Il faut compter 100 € pour la nuit. Et si vous venez avec le routard Normandie de l'année, vous avez même droit à une petite réduction.
Ah oui, c'est vrai ça.
Eh ouais.
Le guide en question dont vous vous occupez, et aussi de magazine, il y en a un par région, ou parfois il y a des régions où il y a plusieurs guides du Routard.
Exactement, selon les circonstances. Là, pour la Normandie, on a réuni la haute et la basse, pas de jaloux, et on a mis tout le monde dans le même Routard Normandie. En effet, vous le trouverez dans le commerce, avec l'heure et avec l'évocation de l'association.
Parfait, merci beaucoup. C'est l'heure de retrouver maintenant notre invité du jour. C'est souvent une personnalité dont vous connaissez le nom ou les œuvres. Là, il s'agit d'un chanteur, Gilbert Montagnier, qui, comme ceux qui l'ont précédé, va être le temps d'une interview, l'ambassadeur d'une région qu'il a beaucoup aimée. Et il a confié à Daniel Moreau ses souvenirs de vacances dans le Bourbonnais, auprès de sa grand-mère. Là, vous allez voir, c'est aussi un voyage en train, en car, à pied, hors des sentiers battus. C'est plein de parfums, c'est de goût et d'émotions, bien sûr. C'est au micro de Daniel Moreau, je le redis.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Gilbert.
Bonjour Daniel et bonjour tout le monde. Ah, mais il y a le William.
Ouais,
salut William.
Il est là.
Alors Gilbert, j'ai envie que tu me parles de tes vacances dans le Bourbonnais. Je crois que tu as des racines très profondes dans cette région.
Mais oui, figure-toi qu'il y a un fan qui a fait mon arbre généalogique et il m'a fait découvrir que Montagnier, qui est mon vrai nom, on est Bourbonnais depuis 1620. Et c'est incroyable. D'abord, il y avait le train. Pour nous, c'était toute une épopée parce qu'on n'avait pas de voiture, évidemment. Imagine, il y avait une partie du chemin qui était à vapeur. C'est fou quand on pense. Et alors après, ils changeaient la locomotive, donc on passait à l'électrique et on arrivait à Moulins, la fameuse ville où, je vous le dis au passage, il y a quand même le Musée national du costume de scène. Et je vous engage à aller voir. Moi, je suis allé, bien sûr. Et quand on arrivait, il fallait qu'on attende. Tout l'après-midi, le train arrivait à 13h09 et il fallait attendre jusqu'à 18h30 pour le car. Le car, avec ce moyen-là, pour faire ses 50 km. Mais moi, j'aimais bien, parce que je m'asseyais tout près du chauffeur, pas tout près, juste à côté, en fait, tout devant. Alors déjà, c'était comme quand tu as une très bonne place, quand tu vois un spectacle et tout, c'est bien. Et là, je lui faisais raconter sa vie. Et puis, nous arrivions à Saint-Léon, que je vous engage à aller visiter. C'est un petit village au départ sans importance, mais pour moi il est très important parce que c'était le village de ma grand-mère. Et dans cette toute petite maison qu'elle avait fait construire, eh bien il y avait des odeurs de bois qui brûlent dans le poêle à bois, et des odeurs de haut lait, comme un flan. Voilà. Et ma grand-mère était cuisinière. Ce que j'aimais dans ce petit village, c'est qu'il y avait le chemin devant la maison qui n'était pas goudronné. Et là, je pouvais me promener seul, puisqu'il y avait très peu de voitures. Alors ma grand-mère avait peur. Mon ch'tiga, fais attention aux autos. Je pense qu'il y en avait une par jour quand tout allait bien. Puis je faisais attention. Et alors j'adorais, je descendais ce petit chemin tout seul en écoutant les oiseaux, en parlant aux oiseaux. Et c'est vrai que bien plus tard, à l'âge de 16 ans, il y a un petit oiseau j'ai déjà dit, mais peut-être il y en a qui ne savent pas, un petit oiseau qui a chanté quelques notes, et j'ai trouvé ça très beau. Il faisait... Et je suis parti de là, et immédiatement j'ai écrit une mélodie, et une mélodie qui a, 3 ans après, eu un texte par Patrick Kent, qui est en Australie, et qui s'appelait The Fool, et The Fool à 50 ans. Et puis, je reviens sur Saint-Léon. Saint-Léon, il y a un endroit qui s'appelle le Puy Saint-Ambroise, qui est, si je ne me trompe pas, à 543 mètres d'altitude. Et là, vous avez une table d'orientation. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais quand même, je le sais, il y a une table d'orientation, et vous pouvez voir, je crois, jusqu'à une dizaine de départements. Ah, vraiment. Il y a un silence encore dans l'Allier. C'est un département où vous serez bien.
Merci beaucoup Gilbert pour cette chronique avec accent, un petit peu, une pointe d'accent. Et puis je retiendrai et on retiendra que The Fool, succès international, est né dans ce beau département de l'Allier à Saint-Léon.
Exactement ma chère Danielle. Et puis si vous venez dans l'Allier, si vous me croisez, faites-moi donc un signe.
Merci Gilbert. Alors, il parle du Foule Vendée Coche, je ne savais pas ça. Je ne me souvenais plus qu'à l'occasion du 50e anniversaire de cette chanson, je ne savais pas qu'elle avait été conçue comme ça, dans un petit chemin de l'Allier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour cet anniversaire, ce titre-là, vous pouvez vous le procurer désormais en version numérique de l'album. Alors, il faut savoir que même à l'époque, on l'a oublié ça aussi, c'est un certain Salvatore Adamo qui a produit ce disque. Je vous propose d'en écouter quelques mesures. Eh oui, The Fool, ça a fait le tour du monde. Hein.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Pour cette dernière partie d'émission, comme d'habitude, une expérience en plein air, un site en plein air, plus que ça même. Dans une région de France que l'on vous propose chaque semaine. Et là, c'est forcément original. C'est le cas encore avec Gavin Clémenté Ruiz du Guide du Routard. On part dans le massif des Vosges. Mais il faut être précis, c'est où ?
Alors, je vous emmène, William, pas loin du lac de Pierre-Percé.
Ouais, ça me dit
c'est
rien,
à 70 km. Ah, vous avez tort, c'est beau. C'est à 70 km de Strasbourg, dans les Vosges. C'est un couple qui vous accueillera. Marielle et Jean-Louis, je les embrasse. Ils sont fans de nature et surtout de chiens de traîneau. Ils ont une passion pour les chiens de traîneau. Ils ont une meute d'une vingtaine de chiens, des Alaskans. Et le temps d'un séjour, au fond des bois, chez eux, ils vous emmènent faire une canille rando.
Alors c'est bien avec un nom pareil, parce qu'on devine à peu près de quoi il s'agit.
Ouais.
L'explication, elle est dans le titre, non ?
Exactement, c'est une randonnée avec des chiens de traîneau.
Mais alors, attendez, avec des chiens de traîneau, mais comme il n'y a pas de neige en ce moment, il y a des traîneaux ou il n'y a pas de traîneaux ? Comment ça se passe ?
Tout va bien, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de traîneau en cette saison, mais parce qu'il n'y a pas de neige, mais on peut quand même aller faire la balade avec les chiens de traîneau. Il n'y a pas de souci. Vous allez enfiler une sorte de harnais qui va prendre votre taille et vos fesses. Et vous allez attacher la corde qui vous relie à votre chien de traîneau au harnais.
Il est devant nous, non ?
Exactement. Chacun a son chien de traîneau devant lui. Et c'est le chien qui vous guide. Et je vais vous dire, il a envie d'y aller.
Oui, mais il ne court pas, le chien.
Ah bah, il ne trottine pas non plus. Hein. Il y va. C'est de la marche sportive vraiment qu'on va faire. C'est vraiment sympa. Je l'ai fait. On traverse la forêt. On a nos guides qui sont là, qui sont Jean-Louis et Marielle. Et vous ne risquez pas de vous perdre parce que le chien, il connaît le chemin.
Oui,
il vous guide.
Il
vous
emmène.
Et chaque chien a sa place dans la meute. Il y a le chien leader. Il y a le chien derrière.
Veut dire qu'on se déplace en groupe. Donc.
Exactement, on peut être à plusieurs, bien entendu, pas trop non plus, parce que il faut que ça reste quand même humain.
Et bien justement, on va demander ça à ceux qui l'organisent. Nous sommes en ligne avec Jean-Louis Kuhn, qui est le musher professionnel qui s'occupe de cette structure qui s'appelle Carpe Diem Émotion. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour William.
Alors,
bonjour.
Ah oui, vous connaissez, c'est vrai. Il a été bien le petit Gavin, ça va ?
Pas mal.
Ouais, non. Pas mal.
Il a assuré.
Donc vous êtes musher, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le chef de troupe ?
Plus ou moins, voilà, effectivement. Hein, dans le musher, on parle d'un attelage, enfin, d'une personne qui conduit un attelage de chiens, qui gère un groupe, du nourrissage aux soins. Hein, Gavin s'y a goûté un petit peu, en passant par l'éducation, l'entraînement.
D'accord.
Je dirais que c'est une passion, un mode de vie.
Comment vous est venue cette idée-là de se dire, chien de traîneau, moi je suis musher, il y a les chiens, mais quand il n'y a pas de neige, on va trouver une idée. Ça vous est venu comment d'associer quelqu'un qui marche, enfin qui trottine, à un chien de traîneau ?
Alors, en fin de compte, le chien a toujours besoin d'un certain exercice, que soit la saison. Effectivement, dans les Vosges, on a une modification climatique qui est assez importante. Donc, pour pouvoir assurer des activités d'une façon un peu pérenne, on était obligé de se diriger vers d'autres pratiques.
La randonnée elle-même, elle dure combien de temps ?
Ça va être en fonction, William, des aptitudes des personnes. Ça peut être une découverte d'une heure environ, jusqu'à des distances beaucoup plus importantes. Par exemple, le tour de Pierre-Percé qui fait 32 km sur une journée.
Mais il y a des pauses de prévues, non ?
Tout à fait, bien sûr. Une pause repas, entre autres.
Ah ouais, c'est bien ça.
Et puis le temps d'admirer aussi le paysage. Hein.
Ah oui, d'accord. Alors, imaginons que je vous regarde passer. Alors qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir combien de personnes qui sont tirées par des chiens.
Alors nous, on se limite, hein, comme Gavin le disait, c'est qu'à un moment donné, on a envie que tout le monde en profite, que les chiens se fassent plaisir, mais que les participants se fassent plaisir aussi. Donc on se limite très souvent à un groupe d'une dizaine de personnes.
Ah oui, quand même, une dizaine de personnes. Et là, il y a une hiérarchie parmi les chiens. Il faut qu'il y ait un chien leader, il y a un chien du milieu, un chien de l'arrière, je ne sais pas.
Alors, ça, c'est plutôt dans un attelage, mais là, en pratique, il nous faut devant des chiens qui sont relativement sécurisants, qui nous écoutent, hein, puisqu'on n'est pas toujours à côté de chaque participant, et de pouvoir leur donner les directions, les ordres d'arrêt, et ainsi de suite, si on devait rencontrer du monde.
On peut passer un séjour chez vous, tout compris, paraît-il, vous nous hébergez ?
Tout à fait. Suite, effectivement, aux différentes rencontres, on a eu l'envie de partager des temps un peu plus longs. Et donc, on invite nos hôtes, hein, en table d'hôtes et chambre d'hôtes, à partager notre passion, donc avec différentes pratiques d'activités, quelles que soient les saisons, des repas autour du feu en extérieur, la découverte du bain suédois aussi.
Ah oui, oui, j'avais entendu parler de ça. Et il paraît qu'il y a ce que vous appelez des bains de forêt. Qu'est-ce que c'est que ça, bains de forêt ?
Alors ça, c'est une spécialité de ma compagne, hein, en fin de compte. Vu qu'on habite en pleine forêt, on a effectivement eu l'idée de faire profiter les gens de cette découverte de la nature qu'on a tendance un peu à oublier.
Ouais.
Donc en ouvrant nos yeux pour admirer, ouvrir nos nez pour sentir, fermer nos bouches un petit peu aussi.
C'est pas facile.
C'est pas facile, je confirme.
Oui, c'est ça, on respecte un certain silence.
Je l'ai fait. Marielle m'a vraiment guidé et m'a montré le chemin dans la forêt, c'était magnifique.
Et puis surtout, c'est en silence, le citadin, tais-toi. Ouais, d'accord. Bon, parfait, merci beaucoup Jean-Louis, vous saluerez Marielle. Je rappelle le nom de votre structure, ça s'appelle Carpe Diem, bonne idée, Carpe Diem, émotion au pluriel. On retrouve les coordonnées sur notre site internet, europe1.fr. Merci beaucoup, bonne journée à
vous. Merci beaucoup à
vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, on termine, Gavitz, avec un récapitulatif de tout ce que l'on vous a présenté ce samedi dans l'émission.
Alors, nous avons découvert les pénitents des Mets, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Ce sont d'étranges sculptures de pierre de plusieurs centaines de mètres de haut. Nous nous sommes mis aussi dans la peau des chevaliers au temps du château de Foix en Ariège, qui vient juste d'être rénové pour une immersion.
Le château, il est chauffé, tout neuf, tout beau.
Tout neuf. Nous avons aussi appris à manœuvrer des locomotives anciennes, ça c'était dans l'Eure, sur un parcours d'une journée. Mm-hmm. Et enfin, on vient de partager le quotidien d'un musher dans le massif des Vosges en faisant une cani-rando.
Voilà, madame, monsieur, à vous de jouer si ça vous a plu. Dernière séquence de l'émission, c'est la séquence culture, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on vous propose un film ou une expo, un roman, ou enfin bref, ou un lieu qui nous permet de découvrir ou redécouvrir nos régions. Qu'est-ce que vous avez retenu, Gavins, là ?
Alors, un livre, ça s'appelle « Paris sous Paris » de Gilles Thomas, avec des photographies de Gaspard Duval. C'est aux éditions EPA. C'est un beau livre, comme on les appelle, qui présente Paris, mais alors, vu du dessous. Souvent, on voit la Tour Eiffel, on voit le Sacré-Cœur, mais là, rien de tout ça. Les auteurs nous montrent et nous racontent les anciennes carrières, les égouts, les catacombes, les stations de métro oubliées aussi, ça j'aime bien.
Avec photos ?
Avec des photos et le texte à côté. C'est là qu'on se rend compte que Paris, c'est un vrai gruyère.
Oui.
Bref, ça s'appelle Paris sous Paris, c'est un beau livre aux éditions EPA.
L'émission est à présent terminée. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavins, donc Clément Pérusse et Morgane Biquillet. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites, toujours en France, dans 4 régions différentes. Bon après-midi sur Europe 1.